des livres plein les oreilles. Bonjour les amis, comment allez-vous, amis lecteurs? C'est la dernière de la saison. Que voulez-vous? Même les meilleures choses ont une fin, même le boudin qu'en a deux. Non, sauf le boudin d'ailleurs qu'en a deux. Mais non, c'est vrai, c'est la dernière. Ça nous fait un petit peu de peine, mais par contre, on va vous donner l'occasion, si vous aimez cette émission, de réentendre les moments que vous avez préférés tout au long de la saison 2015-2016. Alors ce sera cet été que vous pourrez réentendre tout ça sur nos ondes. Mais là, nous avons encore une émission originale et j'ai plein d'invités autour de moi. Je l'ai souvent au bout du téléphone, mais là il s'est dit « Oh, c'est la dernière, allez, je vais venir, Gérald Cousineau est là, ça va Gérald ?»
Bonjour Clotilde, oui ça va très bien, en fait on m'a tordu le bras. Hein.
Oui c'est vrai là, non c'est même pas vrai.
J'adore exagérer.
Mais oui, il adore ça, il viendrait tous les jours s'il pouvait.
Oui.
Marie-Christine Morat, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Marie-Christine, bénévole, lectrice ici, vous savez que c'est quasiment une chroniqueuse régulière ici à l'émission, mais ça faisait longtemps. Hein.
Bah oui. Hein.
Un peu trop longtemps
alors.
Trop longtemps. Puis surtout que là, si vous partez, on vous aura... Enfin bon, bref, ça, c'est un autre chapitre.
On en parlera plus tard.
Et puis, j'ai aussi aujourd'hui, on finit l'émission avec Claudia Larochelle. Claudia, rebonjour.
Bonjour, c'est un honneur d'être ici, merci.
Ben, ça me fait vraiment plaisir. Écoutez, faut-il le rappeler? Oui, je vais le faire pour les gens qui ne le sauraient peut-être pas. Mais Claudia Larochelle a accepté spontanément, dès qu'on lui a demandé d'être notre porte-parole.
Bien sûr.
Et Dieu sait si dans le milieu littéraire, Claudia, vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes quelqu'un, vous aimez les bouquins aussi, vous en dévorez, vous en mangez, vous êtes une femme de verbes et de mots. Bon, malheureusement, on vous a tiré un petit peu la plug à RTV, et croyez bien, et ça je voulais vous le dire au nom de tous ceux qui nous écoutent, qu'on le regrette beaucoup, mais vous m'avez rassuré, vous m'avez dit que... On va vous voir, on va vous entendre.
Oui, il y aura autre chose.
Il y aura autre chose. Et puis en attendant, ben, vous nous avez tricoté un petit gant, une petite fille.
Oui.
Et puis, alors, il sera beaucoup question avec Claudia Larochelle de l'œuvre de Nelly Arcand. On va en parler dans la première demi-heure et dans la seconde demi-heure. Dans la première, on va évoquer ce livre qui s'appelle « Je veux une maison faite de sorties de secours ». Quel titre merveilleux, d'ailleurs, que vous expliquez dans le livre. Et j'aimerais que vous le partagiez tantôt à nos auditeurs. Ce sont des réflexions sur la vie et l'œuvre de Nelly Arcand. Et j'espère que du coup, on vous donnera l'envie de retomber dans cette œuvre-là. D'ailleurs, je n'aime pas trop le terme de retomber, mais de replonger dans cette œuvre-là. Parce qu'en seconde partie, nous aurons l'occasion de regarder quels sont les livres. D'ailleurs, ils sont tous là qui ont été enregistrés en version audio adaptée de Nelly Arcand. Mais on commence, comme le veut la tradition dans cette émission, toujours avec Gérald Cousineau. Gérald Cousineau, vous l'aimez bien cette petite musique-là, hein?
Oui, j'avoue que j'aime bien cette petite musique. Oui, ça va très bien cet été qui commence.
Et en plus, vous êtes venu l'écouter en direct avec nous.
Oui.
Et ça, c'est tellement chouette de votre part. Pour la dernière, là, vraiment, c'est une attention que nous apprécions beaucoup, beaucoup,
J'ai
beaucoup.
J'ai quitté mes terres du nord de Montréal.
J'ai quitté mes terres. Quand je vous dis que je chantais tout le temps à cette émission,
oui, c'est
ben voyez-vous, c'est ça. Gérald, je voudrais rappeler peut-être aux gens qui viendraient peut-être seulement de se joindre à nous, qui ne connaîtraient pas l'émission, qu'elle commence traditionnellement toujours par l'intervention d'une personne non-voyante qui profite donc des livres que nous enregistrons, entre autres ici chez Vues et Voix et aussi chez les concurrents, parce qu'il n'y a pas de problème. On parle des livres audio adaptés et c'est ce qui est important. Alors aujourd'hui, vous nous arrivez avec un bouquin, cher Gérald, un drôle de bouquin, mais pas un bouquin drôle.
Non, c'est drôle par petits bouts, disons.
Ah, quand
Alors,
même.
Je parle d'Alain Deneau, auteur et philosophe d'origine française, né en 1970. Il a écrit, entre autres livres, il en a écrit plusieurs jusqu'à maintenant. J'ai oublié, il est chargé de cours à l'Université de Montréal. Il a écrit, entre autres, Noir Canada, publié en 2006. Ça lui a valu une poursuite d'une compagnie minière canadienne. Il a écrit également Paradis fiscaux, la filière canadienne. Et je crois qu'on peut trouver ces deux livres-là au SQLA. Et le livre dont je parle aujourd'hui... Oui. Se trouve également au SQLA. Donc, rappelez-moi le titre, Clotilde.
La médiocratie.
Voilà. Et ce n'est pas un terme nouveau. Il y a un ami de Flaubert, au 19e siècle, qui l'emploie dans une lettre Donc, moi, je croyais que c'était un terme nouveau. Non, pas du tout. Donc, c'est un vieux mot français. Alors, La Médiocratie, paru en 2015, c'est tout petit, hein, 218 pages, à peu près 6h45 en termes de temps d'écoute. Mm-hmm. On le trouve donc ici en format CD et en ligne. Non, je pense que c'est en ligne seulement. Donc, c'est un livre coup de poing, comme j'aime bien m'en offrir un de temps en temps.
Oui. Hein, oui.
Alors, Alain Deneau n'y va pas de main morte. Et cette fois-ci, il s'attaque... en fait, il dénonce... Bon, commençons par le début. Il dénonce deux choses essentiellement. Le sommeil, l'espèce de sommeil de la pensée critique. Et il dénonce également la médiocratie quand elle est hissée au niveau de valeurs sociales, de normes sociales.
Oui.
Alors, gros sujet. C'est un recueil d'articles qu'il a quand même rafistolé et ça se lit très bien. C'est un essai. Donc, fait d'articles divers, publiés ici et là, comme dans Liberté, par exemple. Donc, il va s'attaquer, le mot n'est pas
trop fort,
à l'université, par exemple, dans les savoirs et l'expertise. Il dénonce l'université qui, souvent, maintenant, c'est triste, mais c'est vrai, est comme subordonnée aux entreprises, donc qui n'ose pas trop dénoncer telle entreprise parce que cette entreprise-là, souvent, est subventionnaire de l'université. Donc, c'est délicat. Il y a des étudiants qui ne peuvent pas faire n'importe quel article ou n'importe quel travail sur n'importe quel sujet parce que ça pourrait déplaire à un organisme subventionnaire. Vous connaissez peut-être certains pavillons, comme quand j'étais à l'Université de Montréal, il y avait le pavillon Bronfman. Donc, il y a certains pavillons qui portent le nom maintenant des compagnies qui les ont pourvus financièrement. Donc, il dénonce ça et il y a un passage assez drôle. Il parle de l'écriture universitaire. J'ai connu ça aussi pendant 10 ans. Il parle des étudiants universitaires qui doivent réapprendre littéralement à écrire quand ils quittent l'université. Parce qu'à l'université, souvent, on les fait écrire d'une façon opaque. On dirait que plus c'est opaque, plus c'est universitaire. J'ai connu ça également. Je me souviens d'une certaine revue littéraire. Il fallait s'y prendre 4 fois. Mais comment? Qu'est-ce qu'il dit exactement?
Ah oui.
Ah oui, c'est incroyable. Et il fallait lire certaines thèses, certains mémoires. Mais qu'est-ce que ça dit? Mais parfois, ça ne disait rien, c'était du vide. Et de là, on passe à la chasse aux subventions, très pratiquée dans les universités. Et donc, subventions qui font que certains professeurs sont devenus plus des chercheurs que des professeurs. Et parfois, à leur corps défendant, ils sont comme obligés de faire ça, de se battre constamment pour trouver des subventions. Et les subventions profitent également aux étudiants. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux. Mais encore là, les sujets sont parfois d'une insipidité rare. Ça ne donne rien. Ça va se retrouver sur une tablette. Ça, c'est l'université, donc, qui en prend pour son rhume. Et là, évidemment, il y a le commerce et la finance, la bourse. Il y a des passages, un passage hallucinant où il parle des algorithmes des ordinateurs qui sont faits de telle façon que la bourse va traficoter, échanger des milliards de dollars en quelques secondes. Incroyable, mais on en est rendu là maintenant. Oui. Alors, de là à penser qu'un crash peut se produire, c'est très possible. Alors ça, quand on y pense deux fois, on est terrifié. Donc, la toute-puissance de la bourse, il parle du pillage des pays sous de fallacieux prétextes. Pensez à Haïti, par exemple. Haïti, où on a maintenant, depuis le fameux tremblement de terre, une sorte d'industrie de l'humanitaire qui s'est installée là. Et les Haïtiens ont le dernier mot. Et ils sont pourtant chez eux. Mais non, on a l'impression que ce sont les humanitaires qui vont décider de quoi eux, les Haïtiens ont besoin.
C'est un exemple.
Mais il y a plein d'exemples comme ça dans ce livre, ça fourmille d'exemples pareils. Et on se dit, mais c'est vrai. Et toujours cette idée de nivellement par le bas, ramener les dirigeants. D'ailleurs, ça commence comme ça. Les médiocres gouvernent le monde, autrement dit.
Oui, les médiocres ont pris le pouvoir.
C'est la phrase choc au tout début. Et c'est de tout ramener à la médiocrité. Il ne faut pas... Vous savez, au Japon, on parle des gens dont la tête dépasse les clous. Vous savez, les clous qui dépassent, on tape dessus pour qu'ils soient à la même égalité que les autres. Ben, c'est ça, la médiocratie. On s'arrange pour que tout le monde soit dans le terne. On dit bien dans le terne
dans
milieu.
Le terne.
Dans le terne milieu ici. C'est incroyable, mais on en est rendu là.
On en sort comment de ce bouquin?
Ben, moi, j'en suis sorti fouetté.
Ah oui,
c'est un coup de poing, un brûlot, comme d'ailleurs Noir Canada l'était, comme Paradis fiscaux l'était également. On en sort fouetté. Oui. Et si vous n'êtes pas au courant, vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est consternant. Et même, il y a des pages consacrées aux artistes qui vont être manipulés par le pouvoir. Pensez à la tragédie du lac Mégantic. On a fait appel aux artistes, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Un spectacle bénéfice, c'est vrai, mais ça sert à quoi au fond? C'est comme un diachylon sur un bobo, mais les vraies causes de la tragédie, est-ce qu'on les a vraiment explorées pour la peine? Mm-hmm. Pas forcément.
Mais est-ce qu'il en parle? Est-ce qu'il y a que de la critique ou est-ce qu'il y a aussi...
Non, à la fin d'ailleurs, dans le dernier chapitre, ça s'appelle « Révolution ». Et là, j'aime bien l'idée de... il parle de « révolu ». Il aspire à un ordre révolu, mais révolu dans le sens de « caduc ». Il aimerait que tout ce qui... Actuellement, il parle d'un ordre dévastateur à grande échelle, mais ça, il aimerait que ça soit révolu. Vraiment. Donc... Il faut ébranler, il veut qu'on ébranle et qu'on subvertisse les fondements même des institutions parce que pour l'instant, il y a 1% des terriens qui vont posséder bientôt presque tout sur la Terre.
Oui, c'est terrible.
Les écosystèmes à 80% sont menacés. Mm. Alors, pour lui, dans le dernier chapitre, il faut vraiment se réveiller. Maintenant, moi, je ne suis pas très optimiste, j'avoue, c'est dans ma nature, mais j'aime bien quand même ce genre d'auteur. Mais est-ce que ce genre de livre a du succès, a des rebondissements? On peut taxer ça d'élitisme? Non. D'ailleurs, il se dit lui-même, ce n'est pas un romantique, c'est un réaliste. Mm-hmm. C'est un livre coup de poing, c'est vrai, mais est-ce que le livre aura un impact? Je ne sais pas. J'aimerais qu'il en ait un, parce qu'à mon avis, c'est un livre nécessaire. Et il n'y en a pas beaucoup de livres nécessaires comme ça.
Oui. C'est vrai qu'en plus, c'est le genre de livre que, par exemple, les hommes politiques ou autres devraient avoir toujours sur leur table de chevet, peut-être, parce qu'on manque d'humanisme énormément. Et puis, c'est ça aussi, d'ailleurs, il en est question dans son bouquin, quoi. On explique.
Oui. En fait, il dit que ce qu'on vit maintenant, ce qu'il dénonce, lui, finalement, c'est ce que les gens, dans les années 70, prônaient.
Exactement.
On y arrive maintenant. Oui. Mais est-ce qu'il est trop tard? Vous parlez des politiciens. Ben, Dieu sait qu'ils en prennent pour leur rhume dans le roman. Hein?
Oui, on n'a qu'à penser
au Québec. Le gouvernement qu'on a ou les gouvernements qu'on a, c'est toujours l'idée de ramener ça à une moyenne. Vous savez, au Québec, on a horreur de la chicane.
Oui.
Et c'est malheureux, d'ailleurs.
Oui.
Mais il ne faut pas se chicaner. Il faut toujours en arriver à un consensus.
Mm.
Mais malheureusement, souvent, on en arrive aussi à une sorte, comme je disais tantôt, comme l'a dit une critique, un terne milieu. C'est malheureux, mais on dit qu'on recherche toujours au Québec ce terne milieu-là, car on a peur d'avoir des idées qui sortent de l'ordinaire. On a peur d'avoir des idées dérangeantes. On a peur de déranger, tout simplement, tout bêtement. Non. Ceux qui chiolent, comme... Moi, Clotilde, je m'ennuie des gens comme Pierre Falardeau. Je m'ennuie de Pierre Bourgault.
Oui,
ben, maintenant, on a Alain Deneau, mais il en faudrait davantage. Pourquoi des gens comme Jean Larose ne parlent pas davantage? Je m'ennuie Normand Baillargeon. Lui, on l'entend, c'est bien, mais... Ça en prendrait beaucoup plus pour nous, pour réveiller les gens, réveiller vraiment les gens.
Mm-hmm. J'aurais envie, que dire d'autre? Parce que je pense qu'il a été tellement éloquent, je ne rajouterai rien à cela, parce que je pense que vous l'avez très bien dit, je vous en remercie, Gérald. Je voudrais juste faire une petite parenthèse et revenir à ce qui vient d'arriver à notre amie Claudia Larochelle, et nous en parlions hors antenne lorsque l'émission Lire a été retirée des ondes. On pouvait peut-être s'attendre à ce que le milieu littéraire bouge en disant quel dommage. Bon, OK, on perd une excellente animatrice, très bien, mais les livres, bon sang, les livres, le littéraire et le milieu, il n'y en a pas tant que ça. Il reste, c'est ce qu'on se disait, il reste Marie-Louise Arsenault et cette modeste émission ici, des livres plein les oreilles. Et il y avait Lire, mais bizarrement, ça n'a pas réagi dans le milieu.
Il y a également
Radio
Ville-Marie, mais je me demande toujours quel est l'auditoire de ces émissions-là. Mais c'est vrai que
Mais quand bien même ce ne serait que des amoureux de littérature, quand bien même il ne serait qu'une couple de, je ne sais pas, 100 personnes ou 200 personnes, moi, s'ils sont amoureux de littérature, ils sont importants et je pense que nous le sommes aussi.
Il reste à espérer qu'on sera contagieux aussi, qu'on va donner le goût à plein de gens.
Gérald, je vous remercie de vous être fait le porte-parole de tous ces gens-là que sont effectivement les Normand Baillargeon, les Deneau de ce monde qu'on n'entend pas beaucoup. On n'entend
pas assez.
Beaucoup plus parler d'humoriste, je pense que de ces gens-là, ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Ils ont toute la place, oui.
Je vous remercie et on va se garder un petit peu de temps pour Claudia Larochelle. Je vous embrasse. Merci beaucoup, Gérald.
Au plaisir.
Claudia, j'ai l'impression que vous êtes complètement chavirée par la chronique de Gérald.
Oui, puis ça fait longtemps que je veux lire, depuis que c'est sorti, que je veux lire Alain Deneau, qui fait partie d'ailleurs des incontournables, la fameuse liste de Radio-Canada.
Oui.
Il faut que je lise ce livre-là, absolument. C'est la suggestion de José Blanchette aux incontournables. Et oui, il nous faut des gens, des éclaireurs, puis on nommait des noms d'hommes, mais il faut des femmes aussi. La parole... la parole féministe, féminine, oui. elle est importante aussi. Celle-là, on ne l'entend pas non. assez parce qu'on ne fait pas non plus la place aux femmes. Et ça, c'est pour ça que j'ai écrit le livre sur Nelly aussi, parce que je veux que cette parole-là, qui était essentielle, qui était éclairante aussi, je veux qu'elle demeure longtemps.
Alors, parlons-en, ouais. parce que c'est pas pour l'instant à la porte-parole que je vais m'adresser, à la porte-parole de Vues et Voix, mais à celle qui a réuni toutes ces réflexions, qui en a écrit aussi quelques-unes autour de l'œuvre de Nelly Arcand. Mm-hmm. D'abord, je voudrais vous dire que je fais partie des gens qui sont passés à côté de Nelly Arcand, au sens propre comme au sens mm-hmm. figuré d'ailleurs.
Bien sûr.
Parce que, et je pense que c'est important que je le dise pour vous faire comprendre à quel point ce livre est maintenant important pour moi. C'est qu'à une époque, je participais souvent au Métropolis Bleu. Mmh. Et c'était au moment où Nelly Arcand avait sorti, entre autres, oui. Putain. Et j'ai eu l'occasion à 2 ou 3 reprises de la rencontrer. Et c'est quelqu'un qui m'intimidait tellement que je n'ai pas osé du tout aller vers elle.
Elle était probablement plus intimidée par toi que toi par elle.
Voilà. Mais, et je me demandais d'ailleurs pourquoi j'étais aussi intimidée. Et il y a un moment donné, une phrase qui, je trouve, me la résumait bien, peu importe d'ailleurs, mais où elle dit en substance que ce corps hyper sexué mm-hmm. et cette intelligence, parce que c'était ça, c'était un esprit intellectuel,
dans
un corps de bimbo. Mm-hmm. Et il a fallu que je lise votre livre et mm-hmm. les réflexions qui sont dedans pour tout d'un coup comprendre. Parce que lorsqu'elle plantait son regard bleu dans vos yeux, ouais. Il y avait de quoi baisser la tête.
Oui, c'est ça, puisque ce que vous dites là, c'est parce que c'est une réflexion de Francine Pelletier dans la revue Liberté. C'est elle qui soulignait ça.
C'est ça.
Puis c'est pour ça que j'ai retenu cette citation de Francine Pelletier que j'aime beaucoup.
Oui.
Parce que je considère que c'est tout à fait ça. Et c'est ça qui... C'est bien qu'on fasse l'introduction avec ça, parce que c'est vraiment ça qui jetait un malaise autour de Nelly Arcand. Ah. C'est ce qui secouait les gens, c'est ce qui créait des malaises, c'est ce qui fait qu'elle a eu beaucoup de mal. Puis c'était pas son but dans la vie non plus à se faire accepter ou à être aimée d'emblée. Mm-hmm. Et ça créait cette forme de malaise-là perpétuelle, permanente. C'est certain, là. Oui, ça a pas aidé, mais bon, elle écrivait pas pour se faire aimer, là.
Non, c'est ça. Claudia, vous étiez une amie.
Ouais,
dites que vous êtes tombée d'amitié avec cette femme-là qui vous a bouleversée. Vous dites que vous avez mis pas mal de temps. Ça vous a pris du temps avant d'arriver à vous plonger dans ce livre-là. Il a fallu digérer cette nouvelle. Hein. On rappelle que son suicide, ça date de 2009.
Oui. Oui, et donc, on ne peut pas écrire ça à chaud. D'abord, on aurait l'impression, les gens auraient dit que je vampirisais son départ ou j'aurais profité de l'occasion.
Ah non, mais on ne peut pas dire ça.
C'est
avec...
pas ça.
Non,
mais je ne voulais pas. Je voulais pas que les gens commencent à médire sur les raisons qui motivaient l'écriture. J'avais besoin de faire digérer ça. J'avais des choses à vivre. J'avais mon deuil à vivre. J'avais aussi le... Je voulais que ses parents, sa famille, j'ai pensé beaucoup à eux en écrivant ça. Je voulais que ses proches, là, immédiats, moi, j'étais une amie, une bonne amie, mais ça faisait pas partie de la famille, là. Mais je voulais qu'ils digèrent, eux aussi, ça. Je leur ai laissé du temps avant d'écrire, avant de leur faire lire le livre, avant de l'avoir leur accord pour la parution. Tu sais,
c'était important. Est-ce qu'ils la connaissaient bien?
Ben oui, ben c'est sûr.
Non, mais je veux dire, oui, mais c'est sûr, on ne sait pas, parce que, je veux dire, il y a des parents parfois qui connaissent...
Oui, je comprends. Je pense qu'ils ont... Oui, étrangement, ils la connaissaient bien mieux que ce qu'on peut imaginer.
Okay.
Parce qu'ils acceptaient son écriture sans être des grands intellectuels. Hein. C'est pas des littéraires, ses parents.
Non.
Bien qu'ils aiment lire, tout ça, mais c'est bon.
Je comprends.
Vous comprenez, là, c'est pas ça. Et ils comprenaient sa démarche, ils comprenaient que c'était de la fiction ou de l'auto-fiction, mais c'est pas biographique ce qu'elle faisait,
non.
là. Tu sais, c'est ça, c'est un livre, c'est une histoire qu'elle racontait, fortement inspirée de son vécu. Je pense qu'ils avaient l'ouverture, la lucidité, l'intelligence, ces gens-là, surtout ils étaient des humains très, très ouverts d'esprit pour accepter leur fille avec tous ses penchants, avec tout ce qu'elle amenait avec elle.
Le titre, « Je veux une maison faite de sorties de secours », c'est sûr que la première fois qu'on tombe sur ce titre-là, on fait « Oh, waouh, d'où ça vient ?» Je voudrais que vous nous le racontiez.
Moi, j'aime beaucoup les titres. Hein. D'abord, quand j'écris un livre, pour moi, les titres, c'est une des choses que je préfère. Donc, il s'est tout de suite... il est venu à moi immédiatement, ce titre-là. Je me souviens même pas d'en avoir eu un autre en tête, vraiment pas. Parce que je me suis rappelée, parce qu'évidemment, pour écrire ça, j'ai fouillé dans les archives, j'ai relu, j'ai fait une petite enquête pour me replonger. Dans sa vie, dans son existence.
Petite, ça.
Oui, pas mal, pas mal grande, une très forte enquête. Ouais. Et j'ai revu, parce que moi, j'avais vu, elle m'avait invité à un spectacle qui s'appelle Les Écuries. C'était présenté à la SAT, Société des Arts Technologiques. C'est Manon Oligny qui faisait une chorégraphie. Puis elle avait invité Nelly à participer à l'écriture. Donc, pendant que c'était un show féministe, là, pendant que les danseuses juments, là, des femmes juments étaient dans leur box, Nelly, ben, c'était vraiment ça. C'était vraiment magnifique comme spectacle. Nelly, elle était à l'ordinateur et elle écrivait en direct des phrases qui lui étaient inspirées par ce qu'elle voyait, par ce qu'elle ressentait par rapport à la musique ou par rapport aux femmes. Donc, qui piaffait là, carrément d'impatience et de toutes sortes de choses. Et Nelly écrivait en direct. Et un jour, il y a cette phrase-là qui est sortie. « Je veux une maison faite de sortie de secours », ce qui veut. Oui, il y avait un lien dans le contexte du spectacle, mais qui a un lien tellement fort dans sa vie.
Dans sa vie,
elle. Où elle cherchait toujours les issues pour elle être heureuse, mais aussi pour se faire comprendre vraiment, parce qu'elle se faisait pas comprendre, parce qu'elle présentait un paradoxe aussi.
Kafka écrivait La honte d'être un homme et Nelly Arcand a écrit La honte d'être une femme.
Oui. Oui, ben
un moment fort aussi de ce livre.
C'est un peu pour ça que nous, on s'est liés d'amitié, je pense. Ah. Il y a eu un coup de feu d'intellectuel parce que ces idées, bien qu'on soit complètement différentes, là, ces idées me rejoignent beaucoup, justement. Moi, j'ai bien avant que ça sorte, j'ai écrit un livre et une des phrases que j'aime bien dire, c'est que naître femme est une malédiction. Oui, bien sûr, c'est un combat. Je dis pas que la condition masculine aujourd'hui au Québec est plus facile que la condition féminine.
Non, on parle pas de ça.
Mais on parle pas ça du tout. Mais le combat n'est pas terminé avec ce que je vois. Puis oui, il y a la nouvelle génération des jeunes femmes de 20 ans que je vois. Il y en a des splendides, il y en a des passionnantes, des filles brillantes, des Aurélie Langteau, des Léa Clermont-Dion. Mais il y a aussi des filles qui, on les voit sur les réseaux sociaux, qui se prennent en photo perpétuellement sur Instagram, qui montrent leur corps, qui font... C'est le culte des apparences pour briller dans l'homme des hommes, dans l'œil des hommes, comme si c'était leur seul objectif de vie. Et là, le combat n'est pas terminé, vraiment pas. C'est pour ça que je voulais que ça perdure. Puis je voulais attirer aussi le regard de... Peut-être que... Trop optimiste, là, mais je voulais que ces jeunes filles-là puissent mettre la main là-dessus. Mais quoi qu'il y ait une fascination chez les jeunes filles pour Nelly Arcand, on le voit, on le sent. Je le voyais au Salon du livre à chaque fois que j'y signais. J'avais des mini Nelly qui venaient.
Oh!
Oui. Mais c'est sûr, c'est des filles souvent qui sont très instruites ou qui sont en études littéraires ou qui ont du moins une curiosité, une ouverture pour ça.
Quand elle nous est arrivée avec son premier livre...
Putain.
Ça a été un choc littéraire.
Ben oui.
Ça a été... je me souviens de l'utilisation terrible qu'ils avaient faite de son image, entre autres à l'émission Tout le monde en parle et tout ça. Ça avait été épouvantable.
À Paris.
Oui, c'est ça. Et il y a une phrase aussi. Ça, c'est un extrait entrevue avec Nancy Houston. Mm-hmm. Donc, c'est vous qui avez rencontré Nancy Houston. Et vous posez cette question-là, et je vais vous la poser à vous, OK? D'après vous, est-ce que Nelly Arcand a flirté avec la prostitution parce qu'elle ne s'aimait pas ou elle ne s'aimait pas parce qu'elle a fait la prostituée?
Hey, mon Dieu! Oui, c'est une bonne question.
Est-ce que vous voulez la réponse de Nancy Houston? Je vous la donne après.
Allez-y donc, ça va m'inspirer pour la mienne.
mon opinion personnelle, c'est qu'une jeune femme qui s'est sentie chérie et respectée pendant son enfance...
Ah oui, puis je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait, c'est ça.
Et qui n'y est pas acculée par le besoin d'argent ne sera pas tentée par cette expérience-là. Je suis contente que vous me disiez ça, parce que moi non plus. Une fois qu'elle y entre, c'est la spirale descendante. Plus elle fréquente ce monde sans amour, moins elle s'aime, et plus elle sera prête à se brader, etc.
C'est ça. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce que les gens ont dit.
C'est correct.
C'est ça, évidemment. C'est ça, je voulais vraiment une pluralité d'idées. Mais en fait, connaissant bien sa famille, parce que je suis allée les interviewer, je les ai vus, je les ai connus, ces gens-là. Je veux dire, c'est une petite fille qui a été chérie, aimée, comprise. Les parents ne sont jamais parfaits. Il y a des failles, c'est certain.
Clair.
Mais je pense qu'il y a eu peut-être la pas du gain, oui, derrière ça, qui ne l'a pas, mais il y a eu une fascination. S'il y a eu vraiment prostitution, hein, le mystère peut demeurer, mais il y a eu une fascination.
Ah oui?
Bah, c'est pas quelque chose qui est si sûr que ça dans mon esprit à moi. Ouais. Non, ça. Oui, c'est pas quelque chose que je vais. Moi, je le dis pas toujours d'emblée parce que dans ma tête à moi, c'est peut-être une expérience qui a été justement de l'ordre de l'expérience qui est peut-être arrivée, mais minimalement, là,
okay,
peut-être.
Je comprends.
Oui, c'était des. Ah, ouais. Je pense pas que c'est quelque chose qui a été très actif. Je pense pas que c'est quelque chose. Elle a pas fait la rue, là. C'est pas ça du tout.
Non, non.
Et de toute façon, c'est juste pour dire que je pense que il y a eu quelque chose de l'ordre de l'exploration, de l'expérimentation là-dedans, une fascination. Pour justement, pour la prostitution, probablement.
Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Vous parliez de ses parents. Il y a cette phrase terrible ici que vous avez extrait de Burqa de Cher. Un jour, mon père, donc c'est Nelly Arcand qui parle, un jour, mon père m'a dit, la voix tremblante, que j'allais un jour trouver la paix intérieure, que fatalement, j'allais trouver cette paix où je n'aurais plus envie de pleurer, où la brusque révélation de ma vie qui prendra fin, tôt ou tard, me couperait le souffle. Et alors là, c'est incroyable. Il m'a dit ce jour-là que l'imminence de ma propre mort tuerait mon penchant au caprice. Mmh. Il a dit que lorsqu'on sait que l'on va mourir, on n'a plus aucune raison de pleurer.
Ouais. Ben, en fait, si j'ai relaté, oui, hein, sont fortes ces citations, c'est parce que j'ai pris des citations dans tous ces livres, là. Je suis allée chercher les citations les plus fortes. Mais ça, c'était pour montrer aussi l'importance qu'a eu la religion, dans la manière dont elle a décrypté la famille, l'esprit de famille dans ses livres, l'impact de la religion, l'impact de tout ce qui est le judéo-christianisme,
oui.
au sein d'une famille tissée serrée des années 70-80.
Okay.
Et puis je voulais montrer l'impact à travers justement l'esprit de sa mère et de son père, oui.
Je rappelle que je m'entretiens avec Claudia La Rochelle autour de l'œuvre de Nelly Arcand. Je veux une maison faite de sortie de secours. L'heure tourne, Claudia.
Mais oui.
Dans Folle, elle écrivait aussi « Je mourrais parce que pour être aimée des autres, il m'aurait fallu sourire. Très tôt, j'ai compris que dans la vie, il fallait être heureux et depuis, je vis sous pression. »
Ouais, c'est beaucoup de pression d'être heureux. Puis il y a le culte du bonheur qui nous harcèle constamment dans la vie, je trouve. Il faut tellement être heureux.
Exactement. Non, mais vous avez raison.
C'est plus de la pression, ça, madame.
Et je pense, moi, après la lecture de ce livre, je vais rester avec ce qu'écrit Chantal Guy, qui dit « Mais je n'y peux rien, ce sentiment d'inachevé me fait mal en ce qui concerne...
Oui. »
Écoutez, je lis cette phrase et j'en ai encore le frisson.
Ben, elle n'avait pas tout dit, hein?
Non, c'est ça.
Non, et non.
On va revenir sur l'œuvre de
Absolument.
Nelly Arcand en seconde demi-heure. On va regarder ensemble tous les livres qui existent en audio adapté. Merci Claudia
Merci.
La Rochelle. Restez avec nous. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Marie-Christine Morat.
Rebonjour.
Rebonjour. Ça faisait des semaines, des mois que vous n'avez pas entendu à cette émission-là.
Tant que ça, mais je manque tant que ça.
Mais pourtant, vous en avez lu des bouquins.
Oui, oui.
Je pense que vous devez avoir pas mal un record, vous, de l'autre côté, il me semble.
Ah, je ne sais pas, il faudrait que je demande ça.
Il faudrait que, oui. Ouais.
Peut-être que je vais gagner quelque chose.
À être connue.
Oh.
Et là, vous nous arrivez avec un livre, un bon livre d'été. On n'est pas dans le chef-d'œuvre de la littérature totale,
mais
dans un livre qui se lit bien,
voilà.
Très agréable. Je vous laisse nous le présenter.
Ben, en fait, vous parliez tout à l'heure des titres accrocheurs, et moi je suis aussi très très sensible aux titres accrocheurs. Alors celui-là, il m'a particulièrement interpellée, donc ça s'appelle « Ma grand-mère vous passe le bonjour ». Alors, il m'a interpellée peut-être parce que j'ai été élevée par ma grand-mère, je ne sais pas.
Ah ouais?
Voilà. Mais en tout cas, rien à voir en tout cas avec mon histoire personnelle. Mais en fait, ce qui m'intrigue dans un titre comme ça, c'est que je me dis, est-ce qu'il va être aussi prometteur que ce que...
Ouais,
enfin,
ouais,
voilà, est-ce qu'il va m'apporter en fait ce qu'il promet? Et là, vraiment, oui.
Oui.
Paris gagné, j'ai adoré ce livre-là. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille de presque 8 ans. Oui. Elle y tient beaucoup. Hein, ça, j'ai 7 ans, mais presque 8 ans, c'est quand même très important pour elle. Elle s'appelle Elsa. Mais elle est vraiment beaucoup plus mature que son âge. Alors attention, pas l'espèce de petit génie agaçant qui passe son temps à calculer, à compter ou à écrire des choses. Mais en fait, sa différence et puis l'attachement qu'on a tout de suite pour elle, ça lui vient du regard très éclairé qu'elle porte sur la vie et surtout sur les autres. Alors évidemment, ça lui cause bien des désagréments, notamment celui de ne pas avoir d'amis de son âge. Et de se replier dans ses lectures, la saga d'Harry Potter.
Parce qu'elle est plus curieuse, hein, elle est plus...
Elle est très, très curieuse, c'est ça, très observatrice, ouais, elle a des oreilles, c'est des véritables antennes. Et puis elle interprète les choses, effectivement, avec une grande maturité. Donc elle n'a pas d'amis, excepté sa seule amie, sa grand-mère, qu'elle appelle Mamie, tout simplement. Alors, c'est une femme complètement fantasque, on peut même dire un petit peu déjantée, avec laquelle elle partage une complicité sans bornes et à qui elle voue une immense affection. Alors, et pour cause, en fait, cette grand-mère fait tout pour illuminer le quotidien de sa petite-fille. Et quand je dis tout, franchement, le mot est faible.
Hein. Alors, pour citer quelques exemples.
Pour citer, par exemple, quelques exemples de ce que peut faire la mamie en question. Alors, elle n'hésite pas à s'introduire la nuit dans un zoo, juste pour changer les idées d'Elsa, et à hurler aux surveillants de prendre garde parce qu'elle est armée de crottes dont elle n'hésitera pas à le bombarder. Ou bien alors, elle se met à flirter avec un policier quand elle est dans une situation délicate, ou même à déambuler toute nue sur son balcon, munie d'un lanceur de paintball. Donc effectivement, c'est quand même pas la grand-mère basique. Bref, c'est vrai que cette mamie peut devenir parfois totalement ingérable et bien évidemment compliquer la vie de son entourage, notamment celle de sa fille, la mère d'Elsa, dont le tempérament réfléchi et structuré est complètement à l'opposé de la mamie en question.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Mais ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, au-delà de la complicité entre la grand-mère et la petite fille qui donne plein de choses drôles, c'est que cette histoire est quand même réellement bouleversante et que ça se révèle au fil des chapitres. En fait, au-delà du portrait d'une femme fantasque, on découvre une toute autre femme avec un parcours réellement poignant. Et d'autant plus poignant d'ailleurs que très tôt dans le roman, donc là je ne dévoile rien, la grand-mère meurt.
Non, c'est ça, ça arrive assez rapidement. Alors on n'est pas dans
Là, je ne dévoile rien du tout. Et de toute façon, elle se savait condamnée, mais elle n'a rien voulu dire à Elsa. Alors j'ai bien aimé cette phrase, parce qu'à 7 ans, on a besoin d'un super-héros, explique justement un jour Mamie à son notaire, avant d'ajouter... Un super-héros dont l'un des super-pouvoirs est de ne pas attraper le cancer.
Ah oui.
Donc voilà pourquoi elle ne voulait pas, parce que... Alors en fait, cette mamie, elle estime, je crois, qu'Elsa doit prendre le temps de rêver pour mieux grandir. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment interpellée.
Et elle lui donne tous les outils pour ça.
Alors elle lui donne tous les outils. C'est pas qu'elle veut lui cacher la vérité, mais elle veut qu'Elsa chemine peu à peu vers la vérité et qu'elle en tire les leçons nécessaires, des leçons de vie.
Oui.
Et donc, l'auteur nous fait découvrir petit à petit pourquoi cette grand-mère avait pris soin de créer, surtout, un univers parallèle à sa petite-fille et de lui inventer des royaumes imaginaires peuplés d'étranges personnages qui, à bien y regarder, sont en quelque sorte les avatars de tous les proches d'Elsa. En fait, à travers eux et à travers ces histoires totalement rocambolesques, Mamie livrait ses messages. Ça a été aussi une femme engagée, passionnée. Alors certes, insaisissable, souvent absente, mais vraiment très dévouée. Elle s'est souvent trompée, elle l'aura rarement reconnue, aura cumulé les maladresses, mais très souvent fait acte d'altruisme et d'amour, bon, certes, à sa façon. Cette mamie, elle savait qu'on ne rattrape pas le temps perdu et elle avait sans doute bien des regrets, notamment celui d'avoir été une mère absente. Mais la mission qu'elle confie à Elsa après sa mort, et là par contre, je ne vous en révélerai rien, contribue en quelque sorte à demander pardon. Mais surtout à donner à la petite fille les clés pour comprendre les liens entre tous les personnages de son entourage et sa grand-mère, pour apprendre à ne pas juger hâtivement, à se méfier des apparences et à dépasser ce qui nous freine et, nous permet d'avancer.
Il y a une petite phrase ici que j'avais notée, moi, que j'ai tellement aimée. « Je suis différente comme mamie, je suis une je-sais-tout comme papa, je sais que je suis une mademoiselle je-sais-tout parce que j'ai vérifié sur Wikipédia et que je tiens ça aussi de papa. Il vérifie toujours tout et je me dispute avec tout le monde et ça, je le tiens de mamie. » Alors, qu'est-ce que je tiens de papy?
Oui, non, mais ça, c'est clair, elle se pose des questions absolument incroyables. Donc, oui, pour moi, c'est vraiment un beau livre. Alors, c'est vrai que c'est écrit parfois dans un style un petit peu déroutant, mais d'abord parce que c'est à la troisième personne. Et puis, qu'il y a quand même pas mal de passages où, justement, ça reprend les histoires du pays presque éveillé, avec les légendes, les personnages. Donc, c'est parfois un peu confus, mais en même temps, on rentre dedans vraiment avec plaisir. Il n'y a pas de souci là-dedans. Et puis, il y a de la magie. Et puis, tous les portraits de tous les personnages, en fait, ils sont tous hauts en couleur.
On les
découvre comme si, puis finalement, on apprend à les connaître comme ça. Et la magie, parce que au fond, les personnages réels sont parfois plus extraordinaires que ceux des légendes. Et ça, je crois que la mamie en question le savait aussi et aimait le leur révéler. Alors, je ne sais pas si vous voulez
un petit extrait. Oui, certainement, certainement, avec grand bonheur.
Alors, qu'est-ce que j'ai choisi?
Alors, un extrait, je vous le rappelle, de « Ma grand-mère vous passe le bonjour » de Frédéric Backman.
Frédéric
Backman.
Enfin, la suédoise. Hein.
B-A-C-K-M-A-N.
Voilà. Alors, le petit extrait. « Avoir une grand-mère signifie avoir une armée. C'est le plus grand des privilèges des petits-enfants. Savoir qu'ils auront quelqu'un de leur côté, toujours, quoi qu'il arrive. Même quand ils ont tort. Surtout quand ils ont tort. » Une grand-mère est une épée et un bouclier. C'est une sorte d'amour très particulière, que les gros futés ne comprennent pas. Quand ils disent à l'école qu'Elsa est différente comme si c'était mal, quand elle rentre avec un œil au beurre noir et que le directeur dit qu'elle doit changer d'attitude et qu'elle provoque les autres enfants, mamie est de son côté. Elle refuse de laisser Elsa demander pardon. Elle refuse de la laisser endosser la faute. Mamie ne dit jamais à Elsa de les ignorer et ça ne les amusera plus de t'embêter, ni de les éviter. Mamie sait. Mamie comprend. Mamie est le genre de personne que l'on emmène avec soi sur le champ de bataille. Mamie est toujours dans la team Elsa. Chaque soir, mamie lui raconte une légende de Miamas. Plus Elsa se sent seule dans le vrai monde, plus son armée s'agrandit dans le pays presque éveillé. Plus les coups de serviette entortillés se font rudes, plus les aventures qu'elle recherche chaque nuit à cheval sont fantastiques. À Miamas, personne ne lui dit de changer d'attitude. C'est pour ça qu'Elsa n'a pas été très impressionnée la première fois que papa l'a emmenée dans un hôtel en Espagne en annonçant que le séjour était « all inclusive ». Parce que quand on a une grand-mère, la vie elle-même est « all inclusive
». Excellent. Marie-Christine Morin, merci Marie-Christine qui est venue vous présenter un livre qu'elle a lu ici en tant que bénévole. Alors je vous rappelle une dernière fois le titre « Ma grand-mère vous passe le bonjour ». Un excellent bouquin. Vraiment un livre d'été de M. Frédéric Backman, je vous le réépelle, B-A-C-K-M-A-N. Marie-Christine, à bientôt.
Oui, Clotilde, à bientôt.
Vous le savez, si vous êtes des habitués de cette émission-là, j'aime bien faire une rubrique qui s'intitule « Des nouvelles et des livres ». Aujourd'hui, pas vraiment de nouvelles, mais ce bouquin, je veux l'utiliser à tout prix. Je veux une maison faite de sorties de secours. Je veux l'utiliser pour vous donner peut-être l'envie de vous replonger dans l'œuvre de Nelly Arcan. Et je vais profiter gaillardement de la présence de Claudia à La Rochelle ici dans notre studio pour revenir sur cette œuvre-là.
Oui, absolument.
Une œuvre importante. Bon, par exemple, là, le premier titre que j'ai sous les yeux, c'est « À ciel ouvert ».
Oui, « À ciel ouvert ». Celui-là, c'est la première fois où je sentais qu'elle prenait un autre chemin, Nelly Arcan, où là, elle traitait vraiment de la burqa de chair, de toutes les chirurgies esthétiques venant de chez ces deux héroïnes, deux femmes. On parle de rivalité au féminin, parle d'amour aussi dans Un ciel ouvert. C'est pas mon préféré, mais on sentait que son écriture allait prendre une espèce de tangente là, à ce moment-là. Elle était moins dans l'autofiction.
C'est ça, exactement.
Elle était plus dans l'invention pure.
Est-ce que c'est son dernier, ça?
Non, son dernier, c'est, il y a eu Paradis clé en main au moment de sa mort. Et ensuite, il y a eu Burqa de chair qui n'était pas terminée. C'est comme l'œuvre inachevée avec un paquet de nouvelles ramassées dans son ordinateur.
Alors, parlons-en de Burqa de chair. Ça a été écrit entre septembre 2001 et septembre 2009.
C'est plein de nouvelles, de textes, de pensées philosophiques, de réflexions écrites tout au fil de sa vie. Puis ça a été ramassé, comme je disais, dans son ordinateur quand les gens ont eu accès à ça après son décès. Oui. Alors, Burqa de chair, c'est vraiment... Ben, c'est elle, c'est son terme, la Burqa de chair.
Oui, c'est elle qui avait inventé
ça. C'est elle qui avait inventé ça et qui reprit. Nancy Houston s'en sert allègrement beaucoup. C'est Nancy Houston, d'ailleurs, qui a signé la préface de Burqa de chair. Nancy Houston est tombée complètement en amour, en admiration avec Nelly Arcan et donner des conférences sur elle. Elle la cite beaucoup, là, surtout dans ses carnets de l'incarnation. Mm-hmm. Il y a vraiment un rapprochement entre les deux. Je ne sais pas, elles ne se sont pas connues là, du vivant de Nelly. Mais Burqa de chair, c'est ça, c'est ses réflexions, ses idées. Des nouvelles comme la robe, la honte, les comportements, ses réflexions intimes, profondes. Elle revient sur vraiment les clés de sa pensée.
Folle.
Ouais, mon préféré. Folle, mon préféré, parce que c'est une passion délirante, une passion amoureuse, avilissante, complètement démesurée pour un homme qui, à mon avis, en valait pas la peine pour toutes sortes de raisons. On est dans l'autofiction, là, ici. Mm-hmm. On reconnaît beaucoup le plateau Mont-Royal. D'ailleurs, ça devait s'appeler Nova Folle. Hein. Nova. Je pense que c'était un bon titre, Nova. Parce que c'est le rapport aux étoiles, au cosmos. C'est très important dans l'œuvre de Nelly. Les gens n'ont pas beaucoup souligné ça, mais c'est quelque chose de hyper important. On parle de sa tante astrologue ou tireuse de cartes, tireuse de tarot. Il y a des références. Oui, ben justement.
D'où les petites étoiles,
sur la jaquette,
ça?
J'ai vu une maison, il y a des étoiles dans sa tête. Oui, femme qui était peuplée d'étoiles. Elle en était une, elle, justement, une supernova elle-même. Elle passait trop vite.
Oui, Nelly Arcan. Alors, Paradis clé en main.
Oui, ça, c'est le dernier. Elle venait juste de mettre le point final à ça. C'est très étrange parce que ça, c'est l'histoire d'un service qui offre de vous suicider, donc de vous tuer si vous voulez vous suicider puis que vous n'avez pas le courage de le faire par vous-même. C'est une compagnie, on peut faire appel à cette compagnie-là et ils viennent, ils ont des tours de stratagèmes pour pouvoir nous mettre fin à nos jours, à notre place si on n'est pas capable. Et l'histoire d'Antoinette, Antoinette a raté ça n'a pas fonctionné, a raté son suicide, donc elle est prise là-dedans. Puis c'est tout le rapport avec la mère aussi qui est très très important. Le rapport aux parents est fort, le rapport à la famille est fort dans l'œuvre, mais dans Paradis clé en main, c'est vraiment le lien avec la mère là, qui est hyper puissant.
Et puis bien sûr, je finis par le commencement, putain.
Oui, ben oui. Ah, puis il y a l'enfant dans le miroir aussi.
Qu'on n'a pas encore, qui n'est pas enregistré.
C'est tellement court. Je pourrais le faire, ça, c'est tellement court.
Non, ce serait bien. Non, c'est pour ça que là, je ne l'avais pas évoqué, parce que malheureusement, on ne peut pas le trouver.
Ah, ben oui, un jour peut-être. D'accord. Parce que c'est vraiment magnifique, c'est une œuvre d'art, ce livre-là. Puis c'est vraiment l'enfance, là.
Ah, OK,
c'est
d'accord.
C'est sûr, c'est cru. Mais putain, oui, c'est le premier. C'est celui qui l'a révélé au grand public. Et puis c'est ce livre-là qui a fait qu'elle a été publiée au Seuil, quand même. C'est pas banal.
C'est
pour une petite Québécoise qui sortait de Mégantic.
Au
Seuil, être publié au Seuil, c'est pas mal le rêve de beaucoup de gens.
Ah oui, hein?
Disons, là, comme ça, là, c'était majeur, c'était big, comme on dit.
Alors voilà, donc les œuvres de Nelly Arcan, du moins celles qui ont été enregistrées en audio adapté, je vous les redonnerai à la toute fin de l'émission si vous n'avez pas eu le temps de les noter. Merci beaucoup, Claudia Larochelle. Vous restez avec nous encore un petit moment. Pour l'instant, je vais m'entretenir avec Gérard Saint-Denis. Ah, Gérard,
En vous attendant, oui. Madame, je croquais en radis.
Ah! Justement, je me disais, alors, où en sont les tomates et les radis?
Ah, c'est fait merveilleux, c'est fait. Et on voit monter les plants, c'est fantastique.
Oh, écoutez.
Ah, c'est beau, cette période-là, c'est merveilleux.
Qu'est-ce qu'on ferait si Gérard ne venait pas nous parler régulièrement de ces radis et de ces tomates et mission, je me demande ce qui...
Mais sachez que cette année, j'ai fait attention, j'ai suivi le conseil de Gertrude, je n'ai que 32 plants de tomates.
Gertrude étant madame. 32 plants de tomates.
Je parle tout bas, pas comment entendre.
Bon. En tout cas, si vous venez à Montréal, vous savez
je vais vous en apporter. J'ai beaucoup de petites tomates aussi.
Bon, et les radis aussi, j'aime bien ça.
L'été, on lit, mais on lit pas de la même façon. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne lit pas de la même façon l'été. On dirait qu'on veut avoir quelque chose qui est plus léger, qui est un peu comme, comme on veut prendre un vin léger. C'est la même chose. Là.
Mm-hmm.
Je vous offre quelques livres.
Oui.
J'ai glané un peu partout. Là. Vous allez voir ça. Je commence avec un livre de Laberge, mais c'est pas Marie Laberge.
Non,
c'est Rosette. C'est Rosette. Oui. Je ne sais pas si un parent avait. Mais c'est bon. C'est La nouvelle vie de Mado Côté.
Mado comme ça la rue Sainte-Catherine.
Mado Côté, oui. Mais c'est La nouvelle vie de Mado Côté.
Mm-hmm.
Elle a dit, elle a pris sa retraite, puis elle a dit oubliez la Floride, oubliez les chutes de poche, oubliez tout ça. Et, mais elle a fait d'autres choses. Et je ne peux pas vous le dire, mais c'est bon, c'est bon, c'est léger, bon. C'est vraiment le
estival.
Tout de suite, c'est l'arrivée du printemps avec ça.
Oui.
Et c'est une jeune retraitée qui est de 55 ans. Ça dure 10 heures. C'est facile, c'est pas long à lire.
D'accord.
Je fais très rapidement.
Et après, vous nous faites plaisir.
Oui, c'est bon, c'est très bon. Romain étranger, moi, j'ai pris.
Oui.
J'ai pris Condé, Maryse Condé.
J'adore.
Mais, elle, c'est une Guadeloupéenne. Guadeloupéenne. Elle est. C'est drôle.
Je l'adore.
Elle parle de nourriture, mais c'est. Et elle dit, c'est juste. Je ne raconterai pas l'histoire, c'est la dame. Mais, quand elle reçoit des gens,
mm-hmm.
elle est pour la première fois chez elle, elle leur dit une petite farce, si on veut. Elle dit, vous savez, je suis peut-être pas bonne comme romancière, mais comme cuisinière, je suis hors pair.
Vous savez, elle avait.
Elle était attendue au Canal 5 français, le
oui, à TV5. Ouais.
Même ce fauve-là, après quelques mois, je l'ai entendu. Elle est tellement
spontanée. Elle est formidable.
Oui, c'est bien le fun. C'est bien le fun à lire. C'est très intéressant.
Bon.
J'ai mis aussi. Donc, c'est sur. C'est toujours sur OSQLA. Hein.
D'accord.
J'ai oublié de le dire. C'est toujours OSQLA. On
continue
OSQLA. Et on a. Attendez une minute.
Je pense que vous étiez rendu à Patrick Modiano.
Oui, c'est ça. C'est un petit roman qui est facile à lire et qu'on prend puis qu'on lâche, il est fini. C'est 2h43, des 3 heures de temps. Donc, un après-midi qu'on veut lire ça, c'est très, très facile.
Pouf, il pleut, facile, on écoute
c'est
ça,
fini,
on se met ça dans les oreilles.
C'est fait. C'est intéressant. On le retrouve aussi où est-ce qu'il est là.
Oui.
C'est Modiano, Patrick, pour que tu ne te perde pas.
Dans le quartier. Vous connaissez, Claudia?
Oui, j'adore, Modiano.
OK. Bon. Après ça, j'ai pensé à Louis Caron, Le temps des bâtisseurs. C'est le tome 1.
Oui.
Mais il va en avoir d'autres qui vont venir. Mais ceux qui aiment Louis Caron, qui aiment. C'est, il écrit bien, c'est intéressant.
Ben oui, ce sont des.
C'est de l'histoire.
Oui.
Et c'est bien fait, c'est très bien fait. Et ça nous rappelle nos milieux de vie, etc. Peu importe où on a été élevé.
D'accord.
Même ceux qui viennent de Verdun comme moi.
D'accord.
Bon.
Un petit Christine Brouillette.
J'ai pensé aussi à Brouillette.
Ben oui.
Christine Brouillette, 6 minutes. C'est un de ses. Elle est très bonne, mais il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est un bon petit roman. Ça dure 8-9 heures, et puis on lit ça assez facilement. C'est un roman policier.
Oui.
Et comme d'habitude, elle a réussi à régler le problème.
Oui,
elle règle. Les gens qui règlent les problèmes.
La révolution
tranquille au Manitoba, là, ça, c'est pour les gens qui aiment beaucoup la francophonie.
Oui. Et
c'est écrit par un ami Hébert, Raymond Hébert.
Oui.
Et c'est un peu ce qui s'est fait pendant que nous autres, on avait notre révolution tranquille au Québec.
Mmh.
Au Manitoba, ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Il y avait les mêmes problèmes que nous autres.
Mmh.
C'était la législation, c'était les curés qui venaient, les paroisses, etc. Et là, ils ont décidé d'ésoter les curés. Oh, oh, oh. Ça n'a pas été facile. Mais c'est intéressant. C'est une belle petite étude qui est intéressante à lire. Et ça a eu le prix du gouvernement du Manitoba. Ça s'appelle le prix, attendez une minute, là, je vais vous le dire, là. Rue Deschambault.
Oui,
un prix
ça.
Qui a été inventé par le gouvernement du Manitoba pour récompenser. C'est oui. Bisannuel. J'ai regardé, puis je me rappelle. Bisannuel, c'est aux 2 ans.
Mon petit Gérard, nous allons manquer de temps. Je voudrais que vous alliez directement à votre choix. Votre choix, vous, de livre d'été, oui, ce serait quoi?
J'ai suggéré d'aller à AVH.
Oui.
AVH, OK.
En Europe?
Oui. Il y a un auteur policier qui est... Il y a Tempête sur
Armen.
Oui, c'est très bon. Vous allez voir ça, c'est un choix. Mais avant ça, je veux juste, pour finir, de dire aux gens de ne pas oublier que s'ils veulent, ceux qui aiment les romans policiers du genre de Simenon, du genre d'Agatha Christie, d'aller voir les enquêtes de Marie Lester, oui. À AVH, il y en a 8 ou 10.
Rappelez-nous rapidement ce qu'est AVH, parce que il faut que...
Association Valentin a eu.
Voilà, c'est ça.
Et vous pouvez vous abonner gratuitement, c'est facile.
Voilà.
Et à la fin, vous allez le mettre, n'oubliez pas de dire aux gens qui veulent avoir un bon petit bout de temps, de ma Samantha, la bonne à rien faire, là, qui est sur AVH.
Oh, écoutez, je vais essayer de la rentrer dans ma chronique des titres en rafale, si je remets la main dessus. Oui. Vous
Samantha,
pouvez compter sur moi.
Samantha,
d'accord.
Samantha, bonne à rien faire, c'est tout à fait exceptionnel.
D'accord.
Exceptionnel. Je vous souhaite un bon été. Je salue tous nos auditeurs. Et s'ils passent par Drummondville, ils viennent voir mon jardin. Il y aura un problème. Ça me fera plaisir d'aller recevoir.
D'accord, Gérard. Et je vous embrasse vraiment fort, fort, fort. Et bon été à vous. Et merci pour votre présence si chaleureuse à cette émission.
C'était bien agréable.
Merci, Gérard.
Bye-bye.
Allez, on va y aller tout de suite avec quelques titres en rafale. Il y en a pour tous les goûts. Vous allez voir ça. Par exemple, il y en a qui sont complètement accros de l'auteur français Christian Jacques. Alors, j'ai envie de vous proposer cette nouvelle, ce nouveau thriller qui s'intitule « La vengeance d'Anubis ». Nous sommes à Londres alors qu'il y a une exposition qui est consacrée au trésor de Toutankhamon. Et figurez-vous que le clou du lancement, c'est la promenade sur la Tamise d'une statue géante d'Anubis. Ok, ça c'est les. Et alors, qui est Anubis? C'est le dieu des morts à tête de chacal. Eh bien, à l'intérieur de la statue en bois, je vous le donne en mille, un cadavre mutilé d'un homme. Alors, qui est la victime? Qui est l'assassin? C'est ce que M. Christian Jacques vous propose dans ce thriller très très d'été aussi, qui s'appelle La vengeance d'Anubis, nouvellement sorti au SQLA. Voilà quelqu'un, Claudia La Rochelle, que vous devez connaître. Ce nom-là, c'est Teresa Crémisi. Mm-hmm. Hein? Et son livre La Triomphante, que j'ai envie de proposer aussi à nos amis. Madame Crémisi, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit à Claudia qu'elle devait la connaître. Cette femme, d'abord, faut savoir, d'origine égyptienne, mais également italienne.
Ben,
par,
c'est
ça, exactement. Italienne par papa et égyptienne par maman, je pense, ou quelque chose, c'est ça. Et cette femme fut président, directeur général de l'ensemble Flammarion.
Quel boulot, surtout pour une femme. C'est rare qu'on nommait à ce moment-là... Une femme à la tête d'une maison d'édition, hein, c'était assez machiste. Là.
Exactement. Ah ben oui, une fois de plus. Eh bien, cette femme-là a signé un livre qui s'appelle La Triomphante et qui est un peu l'histoire d'un parcours, finalement, d'une femme qui d'abord choisit l'Europe et d'une femme qui choisit aussi la littérature. Alors, je ne vous recommande que trop cette lecture-là de La Triomphante de Teresa Crémisi. Ça s'écrit comme ça se prononce, Cremisi. Numéro 0, c'est le dernier d'Umberto Eco, avant qu'il ne nous quitte. C'est son 7e et dernier roman. Non, ce n'est pas le roman le plus érudit d'Umberto Eco, pouvait-on lire dans la presse, mais c'est sans doute l'un des plus cruels, l'un des plus éclairants et l'un des plus pertinents. C'est l'histoire d'un regroupement de jeunes à qui on demande de créer un journal. Et là, tout d'un coup, ils vont comme imaginer, ils partent sur une idée que Mussolini, finalement, il n'aurait jamais été assassiné, que c'était pas lui qui avait été assassiné, qu'ils avaient mis là un sosie. La preuve, c'est qu'on l'a retrouvé, Mussolini. Bref, un livre à la Umberto Eco, mais assez facile aussi à lire, Claudia, que je ne saurais que trop vous recommander. Numéro 0 d'Umberto Eco. Celui-ci est peut-être un petit peu moins facile, mais c'est un auteur que moi j'adore, c'est Dominique Fernandez. Et j'avais envie de vous proposer Les enfants de Gogol avec une préface d'Andrei Makin. Le fil rouge à travers ce roman, c'est l'absence du père hein, qui revient là constamment. On parle d'Étienne, qui est le narrateur, qui avait 12 ans quand son père à lui a été tué. Jeune agrégé en russe, il se passionne pour Gogol, qui est lui aussi un fils sans père. Alors c'est une espèce de rencontre entre ces deux-là. C'est signé Dominique Fernandez, encore une fois, dont je ne sais pas si vous aimez sa littérature.
Oui, mais j'aime surtout Andrea Makin.
Ah oui, mais moi, Makin, j'aime pas. Oui, mais pas tout. Moi, c'est marrant. On pourrait s'en reparler, mais Fernandez.
Mais moi, je suis pas d'accord qu'il faut lire léger l'été. On pourrait s'en reparler aussi.
Ça c'est vrai.
moi, je peux lire.
Non,
des choses assez
les enfants de Gogol, c'est pas dans le genre très très léger non plus.
Je
et puis, vous voyez dans quel sujet. Tiens, en voilà un vrai sujet très vite et on se quitte là-dessus. Tu me manques. C'est un autre Harlan Coben. Ne ratez pas ça si vous aimez le genre. Ça c'est carrément. Je voudrais remercier tous mes invités aujourd'hui. Gérald Cousineau qui était là en direct avec nous. Il a fait le chemin. Je voudrais remercier Marie-Christine Morat qui était là aussi. Merci Marie-Christine et bon été à vous. Vous remercier Claudia La Rochelle d'avoir été présente. Merci d'être la porte-parole, la porte-voix de Vues et Voix.
Quelle belle émission Clotilde.
Merci beaucoup Claudia.
Bien, beau studio. Merci.
Merci infiniment. Merci Jean-Sébastien La Liberté et Gérard Saint-Denis. Bon été à tout le monde. Bonne reprise et je l'espère à cet automne. Salut.